Chapitre 7. Le nègre et la reconnaissance. Partie A. Le nègre et Adler. Par quelque côté qu'on aborde l'analyse des états morbides psychogènes, on ne tarde pas à se trouver en présence du phénomène suivant. Tout le tableau de la névrose, ainsi que tous ses symptômes, apparaissent comme influencés par un but final, voire comme des projections de ce but. Aussi, peut-on attribuer à ce but final la valeur d'une cause formative, celle d'un principe d'orientation, d'arrangement, de coordination. Essayer de comprendre le sens et la direction des phénomènes morbides sans tenir compte de ce but final, et vous vous trouverez aussitôt en présence d'une multitude chaotique de tendances, d'impulsions, de faiblesses et d'anomalies, faites pour décourager les uns et pour susciter chez les autres le désir téméraire de percer coûte que coûte les ténèbres, au risque d'en revenir les mains vides ou avec un butin illusoire. Si au contraire, on admet l'hypothèse du but final ou d'une finalité causale cachée derrière les phénomènes, on voit aussitôt les ténèbres se dissiper et nous lisons dans l'âme du malade comme dans un livre ouvert. C'est à partir de positions théoriques analogues que s'édifient en général les mystifications les plus ahurissantes de notre époque. En effet, appliquons la psychologie caractérielle aux Antillais. Les nègres sont comparaisons. Première vérité. Ils sont comparaisons, c'est-à-dire qu'à tout instant, ils se préoccupent d'auto-valorisation et d'idéal du moi. Chaque fois qu'ils se trouvent en contact avec un autre, il est question de valeur, de mérite. Les Antillais n'ont pas de valeur propre, ils sont toujours tributaires de l'apparition de l'autre. Il est toujours question de moins intelligent que moi, de plus noir que moi, de moins bien que moi. Toute position de soi, tout ancrage de soi entretient des rapports de dépendance avec l'effondrement de l'autre. C'est sur les ruines de l'entourage que je bâtis ma virilité. Je propose au Martiniquais qui me lit l'expérience suivante. Déterminer la plus comparaison des rues de Fort-de-France. La rue Schœlcher, la rue Victor Hugo, certainement pas la rue François Arago. Le Martiniquais qui accepte de réaliser cette expérience sera de mon avis dans l'exacte mesure où il ne se crispera pas de se voir mis à nu. Un Antillais qui retrouve un camarade après 5 ou 6 ans l'aborde agressivement. C'est que dans le temps, l'un et l'autre avaient une position déterminée. L'infériorisé croit se valoriser et le supérieur tient à la hiérarchie. Tu n'as pas changé, aussi bête. J'en connais, cependant, médecins et dentistes qui continuent à se jeter à la tête des erreurs de jugement vieilles de 15 ans. Mieux que des erreurs conceptuelles, ce sont des créolismes qu'on lance aux dangereux. On l'a maîtrisé une fois pour toutes, à rien à faire. L'Antillais se caractérise par son désir de dominer l'autre. Sa ligne d'orientation passe par l'autre. Il est toujours question du sujet et l'on ne se préoccupe nullement de l'objet. J'essaie de lire dans les yeux de l'autre l'admiration, et si par malheur l'autre me renvoie une image désagréable, je dévalorise ce miroir. Décidément, cet autre est un imbécile. Je ne cherche pas à être nu en face de l'objet. L'objet est nié en tant qu'individualité et liberté. L'objet est un instrument. Il doit me permettre de réaliser ma sécurité subjective. Je me donne comme plein, désir de plénitude, et n'admets aucune scission. L'autre entre sur la scène pour la meubler. Le héros, c'est moi. Applaudissez ou critiquez, que m'importe, c'est moi le centre. Si l'autre veut m'inquiéter par son désir de valorisation, sa fiction, je l'expulse sans autre forme de procès. Il n'existe plus. Ne me parlez pas de ce type, je ne veux pas subir le choc de l'objet. Le contact de l'objet est conflictuel. Je suis narcisse et je veux lire dans les yeux de l'autre une image de moi qui me satisfasse. Aussi, en Martinique, dans un cercle donné, milieu, y a-t-il le Pelé, la cour du Pelé, les indifférents qui attendent et les humiliés. Ceux-là sont impitoyablement massacrés. On devine la température qui règne dans cette jungle. Pas moyen de s'en sortir. Moi, rien que moi. Les Martiniquais sont avides de sécurité. Ils veulent faire admettre leur fiction. Ils veulent être reconnus dans leur désir de virilité. Ils veulent paraître. Chacun d'eux constitue un atome isolé, aride, tranchant. Au trottoir bien délimité, chacun d'eux est. Chacun d'eux veut être, veut paraître. Toute action de l'Antillais passe par l'autre. non parce que l'autre demeure le but final de son action dans la perspective de la communion humaine que décrit Adler, mais plus simplement parce que c'est l'autre qui l'affirme dans son besoin de valorisation. Maintenant que nous avons retrouvé la ligne d'orientation adlérienne de l'entillé, il nous reste à en rechercher l'origine. Ici apparaissent les difficultés. En effet, Adler a créé une psychologie individuelle. Or, nous venons de voir que le sentiment d'infériorité est entillé. Ce n'est pas tel entillé qui présente la structure du nerveux, mais tous les entillés. La société antillaise est une société nerveuse, une société comparaison. Donc nous sommes renvoyés de l'individu à la structure sociale. S'il y a un vice, il ne réside pas dans l'âme de l'individu, mais bien dans celle du milieu. Le Martiniquais est un nerveux et n'en est pas un. Si nous appliquions rigoureusement les conclusions de l'école adlérienne, nous dirions que le nègre essaye de protester contre l'infériorité qu'il ressent historiquement. Comme le nègre de tout temps a été un inférieur, il essaie de réagir par un complexe de supériorité. Et c'est bien ce qui ressort du livre de Branchfeld parlant du sentiment d'infériorité raciale. L'auteur cite une pièce espagnole d'André de Claramunté, El Valiente Negro, de Flandre. On y peut voir que l'infériorité du nègre ne date pas de ce siècle, puisque Claramunté est contemporain de Lope de Vega. La couleur seule lui fait défaut pour qu'il soit un vrai caballero, et le nègre Juan Mérida s'exprime ainsi: Quelle infamie c'est d'être noir dans ce monde! Les noirs ne sont-ils pas des hommes? Ont-ils pour cela une âme plus vile, plus maladroite, plus laide? Et pour cela on leur donne des surnoms. Je me lève lourd de l'infamie de ma couleur, et j'affirme mon courage au monde. Est-il si vil d'être noir? Le pauvre Juan ne sait plus à quel saint se vouer. Normalement, le noir est un esclave. Rien de pareil dans sa position. Car, malgré que je sois noir, je ne suis pas un esclave. Il voudrait cependant échapper à cette noirceur. Il a une attitude éthique dans la vie. Axiologiquement, c'est un blanc. Je suis plus blanc que la neige, car en définitive, sur le plan symbolique, qu'est-ce donc être noir? Est-ce être de cette couleur? De cette offense, je me plaindrai au destin, au temps, au ciel, et à tous ceux qui me firent noir. Ô malédiction de la couleur! Enfermé, Juan s'aperçoit que l'intention ne peut le sauver. Son apparaître mine, infirme toutes ses actions. Qu'importent les âmes, je suis fou. Que faire sinon être désespéré? Ô ciel, quelle affreuse chose d'être noir! Au paroxysme de la douleur, il ne reste qu'une solution au malheureux nègre, donner l'épreuve de sa blancheur aux autres et surtout à lui-même. Si je ne peux pas changer de couleur, je veux l'aventure. Comme on le voit, il faut comprendre Juan de Mérida dans la perspective de la surcompensation. C'est parce que le nègre appartient à une race inférieure qu'il essaie de ressembler à la race supérieure. Mais nous savons nous dégager de la ventouse adlérienne. De Mann et de Eastman ont en Amérique appliqué la méthode d'Adler d'une façon quelque peu abusive. Tous les faits que j'ai relevés sont réels, mais il faut le dire, ils n'entretiennent avec la psychologie adlérienne que des rapports externes. Le Martiniquais ne se compare pas au blanc, considéré comme le père, le chef-dieu, mais se compare à son semblable sous le patronage du blanc. Une comparaison adlérienne se schématise de la manière suivante. Moi plus grand que l'autre. La comparaison antillaise, par contre, se présente ainsi. Blanc, moi différent de l'autre. La comparaison adlérienne comporte deux termes. Elle est polarisée par le moi. La comparaison antillaise est coiffée par un troisième terme, la fiction dirigeante. N'y est pas personnel, mais social. Le Martiniquais est un crucifié, le milieu qu'il a fait, mais qu'il n'a pas fait, l'a épouvantablement écartelé, et ce milieu de culture, il l'entretient de son rang et de ses humeurs. Or, le sang du nègre est un engrais estimé de connaisseur. Adlériennement, après avoir constaté que mon camarade, dans son rêve, réalise le désir de se blanchir, c'est-à-dire d'être viril, je lui révélerai donc que sa névrose, son instabilité psychique, la brisure de son moi provient de cette fiction dirigeante, et je lui dirai: Monsieur Manoni a très bien décrit ce phénomène chez le Malgache. Vois-tu, Il faudrait, je crois, que tu acceptes de rester à la place qu'on t'a faite. Eh bien non, je ne dirai point cela. Je lui dirai, c'est le milieu, la société qui sont responsables de ta mystification. Ceci dit, le reste viendra tout seul, et l'on sait de quoi il s'agit, de la fin du monde, parbleu. Je me demande parfois si les inspecteurs d'enseignement et les chefs de service sont conscients de leur rôle aux colonies. Pendant 20 ans, ils s'acharnent par leur programme à faire du nègre un blanc. À la fin, ils le lâchent et lui disent, vous avez incontestablement un complexe de dépendance vis-à-vis du blanc. Partie B, le nègre et Hegel. La conscience de soi est en soi et pour soi, quand et parce qu'elle est en soi et pour soi, pour une autre conscience de soi, c'est-à-dire qu'elle n'est qu'en tant qu'être reconnu. Hegel, Phénoménologie de l'esprit. L'homme n'est humain que dans la mesure où il veut s'imposer à un autre homme, afin de se faire reconnaître par lui. Tant qu'il n'est pas effectivement reconnu par l'autre, c'est cet autre qui demeure le thème de son action, c'est de la reconnaissance par cet autre que dépendent sa valeur et sa réalité humaine. C'est dans cet autre que se condense le sens de sa vie. Il n'y a pas de lutte ouverte entre le blanc et le noir. Un jour, le maître blanc a reconnu, sans lutte, le nègre esclave, mais l'ancien esclave veut se faire reconnaître. Il y a, à la base de la dialectique hégélienne, une réciprocité absolue qu'il faut mettre en évidence. C'est en tant que je dépasse mon être là immédiat que je réalise l'être de l'autre comme réalité naturelle et plus que naturelle. Si je ferme le circuit, si je rends irréalisable le mouvement à double sens, je maintiens l'autre à l'intérieur de soi. À l'extrême, je lui enlève même cet être pour soi. Le seul moyen de rompre ce cercle infernal qui me renvoie à moi-même et de restituer à l'autre, par la médiation et la reconnaissance, sa réalité humaine, différente de la réalité naturelle. Or, l'autre doit effectuer semblable opération. L'opération unilatérale serait inutile parce que ce qui doit arriver peut seulement se produire par l'opération des deux. Ils se reconnaissent comme se reconnaissant réciproquement. Dans son immédiateté, la conscience de soi est être pour soi, simple. Pour obtenir la certitude de soi-même, il faut l'intégration du concept de reconnaissance. L'autre, pareillement, attend notre reconnaissance afin de s'épanouir dans la conscience de soi, afin de s'épanouir dans la conscience de soi universelle. Chaque conscience de soi recherche l'absoluité. Elle veut être reconnue en tant que valeur primordiale, désinsérée de la vie, comme transformation de la certitude subjective en vérité objective. Rencontrant l'opposition de l'autre, la conscience de soi fait l'expérience du désir. Première étape sur la route qui conduit à la dignité de l'esprit, elle accepte de risquer sa vie et par conséquence menace l'autre dans sa présence corporelle. C'est seulement par le risque de sa vie qu'on conserve la liberté, qu'on prouve que l'essence de la conscience de soi n'est pas l'être, n'est pas le mode immédiat dans lequel la conscience de soi surgit d'abord, n'est pas enfoncement dans l'expansion de la vie. Ainsi, la réalité humaine en soi pour soi ne parvient à s'accomplir que dans la lutte et par le risque qu'elle implique. Ce risque signifie que je dépasse la vie vers un bien suprême qui est la transformation en vérité objective, universellement valable, de la certitude subjective que j'ai de ma propre valeur. Je demande qu'on me considère à partir de mon désir. Je ne suis pas seulement ici maintenant, enfermé dans la choséité, je suis pour ailleurs et pour autre chose. Je réclame qu'on tienne compte de mon activité négatrice en tant que je poursuis autre chose que la vie, en tant que je lutte pour la naissance d'un monde humain, c'est-à-dire d'un monde de reconnaissance réciproque. Celui qui hésite à me reconnaître s'oppose à moi. Dans une lutte farouche, j'accepte de ressentir l'ébranlement de la mort, la dissolution irréversible, mais aussi la possibilité de l'impossibilité. Note. Quand nous avons commencé ce travail, nous voulions consacrer une étude à l'être du nègre pour la mort. Nous la jugeons nécessaire, car on ne cesse de répéter, le nègre ne se suicide pas. L'autre, cependant, peut me reconnaître sans lutte. L'individu qui n'a pas mis sa vie en jeu peut bien être reconnu comme personne, mais il n'a pas atteint la vérité de cette reconnaissance d'une conscience de soi indépendante. Historiquement, le nègre plongé dans l'inessentialité de la servitude a été libéré par le maître, il n'a pas soutenu la lutte pour la liberté. D'esclave, le nègre a fait irruption dans la lice où se trouvaient les maîtres, pareil à ses domestiques, à qui, une fois l'an, on permet de danser au salon. Le nègre cherche un support, le nègre n'est pas devenu un maître. Quand il n'y a plus d'esclave, il n'y a pas de maître. Le nègre est un esclave à qui on a permis d'adopter une attitude de maître. Le blanc est un maître qui a permis à ses esclaves de manger à sa table. Un jour, un bon maître blanc qui avait de l'influence a dit à ses copains « Soyons gentils avec les nègres ». Alors, les maîtres blancs, en rouspétant, car c'était quand même dur, ont décidé d'élever des hommes machines bêtes au rang suprême d'homme. Nulle terre française ne doit plus porter d'esclaves. Le bouleversement a atteint le noir de l'extérieur. Le noir a été agi, des valeurs qui n'ont pas pris naissance de son action, des valeurs qui ne résultent pas de la montée systolique de son sang, sont venues danser leur ronde colorée autour de lui. Le bouleversement n'a pas différencié le nègre. Il est passé d'un mode de vie à un autre, mais pas d'une vie à une autre, de même que, lorsqu'on annonce à un malade amélioré qu'il sortira dans peu de jours de l'asile, il arrive qu'il rechute, de même la nouvelle de la libération des esclaves noirs détermina des psychoses et des morts subites. Dans une vie, on n'apprend pas deux fois cette même nouvelle. Le noir s'est contenté de remercier le blanc, et la preuve la plus brutale de ce fait se trouve dans le nombre imposant de statues disséminées en France et aux colonies, représentant la France blanche, caressant la chevelure crépue de ce brave nègre dont on vient de briser les chaînes. « Dis merci à monsieur, » dit la mère à son fils. Mais nous savons que souvent, le petit garçon rêve de crier quelque autre mot, plus retentissant. Le blanc en tant que maître a dit au nègre « Désormais tu es libre. » Note. Nous espérons avoir montré que le maître ici diffère essentiellement de celui décrit par Hegel. Chez Hegel, il y a réciprocité. Ici, le maître se moque de la conscience de l'esclave. Il ne réclame pas la reconnaissance de ce dernier, mais son travail. Fin de la note. Mais le nègre ignore le prix de la liberté, car il ne s'est pas battu pour elle. De temps à autre, il se bat pour la liberté et la justice, mais il s'agit toujours de liberté blanche et de justice blanche, c'est-à-dire de valeurs sécrétées par les maîtres. L'ancien esclave, qui ne retrouve dans sa mémoire ni la lutte pour la liberté, ni l'angoisse de la liberté, dont parle Kierkegaard, se tient la gorge sèche en face de ce jeune blanc qui joue et chante sur la corde raide de l'existence. Quand il arrive au nègre de regarder le blanc farouchement, le blanc lui dit « Mon frère, il n'y a pas de différence entre nous. » Pourtant, le nègre sait qu'il y a une différence, il la souhaite. Il voudrait que le blanc lui dise tout à coup « Sale nègre !» Alors, il aurait cette unique chance de leur montrer. Mais le plus souvent, il n'y a rien, rien que l'indifférence ou la curiosité paternaliste. L'ancien esclave exige qu'on lui conteste son humanité. Il souhaite une lutte, une bagarre, mais trop tard, le nègre français est condamné à se mordre et à mordre. Nous disons le français car les Noirs américains vivent un autre drame. En Amérique, le nègre lutte et il est combattu. Il y a des lois qui petit à petit disparaissent de la Constitution. Il y a des décrets qui interdisent certaines discriminations, et nous sommes assurés qu'il ne s'agit pas alors de dons. Il y a bataille, il y a des fêtes, trêve, victoire. The 12 million black voices ont gueulé contre le rideau du ciel, et le rideau, traversé de part en part, les empreintes dentales bien en place, logées dans son ventre d'interdiction, est tombé tel un balafon crevé. Sur le champ de bataille, limité aux quatre coins par des vingtaines de nègres pendus par les testicules, se dresse peu à peu un monument qui promet d'être grandiose. Et au sommet de ce monument, j'aperçois des gens, un blanc et un nègre, qui se donnent la main. Pour le noir français, la situation est intolérable. N'étant jamais sûr que le blanc le considère comme conscience en soi pour soi, sans cesse il va se préoccuper de déceler la résistance, l'opposition, la contestation. C'est ce qui ressort de quelques passages du livre que Mounier a consacré à l'Afrique. Les jeunes noirs qu'il a connus là-bas voulaient conserver leur altérité, altérité de rupture, de lutte, de combat. « Le moi se pose en s'opposant, disait Fichte, Oui et non. Nous avons dit dans notre introduction que l'homme était un oui. Nous ne cesserons de le répéter. Oui à la vie, oui à l'amour, oui à la générosité. Mais l'homme est aussi un non, non au mépris de l'homme, non à l'indignité de l'homme, à l'exploitation de l'homme, au meurtre de ce qu'il y a de plus ou moins dans l'homme, la liberté. Le comportement de l'homme n'est pas seulement réactionnaire, il y a toujours du ressentiment dans une réaction. Nietzsche, dans La volonté de puissance, l'avait déjà signalé. Amener l'homme à être actionnel, en maintenant dans sa circularité le respect des valeurs fondamentales qui font un monde humain, telle est la première urgence de celui qui, après avoir réfléchi, s'apprête à agir.